C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Le 40e anniversaire. Mais que s'est-il passé le samedi 26 avril 1986 ? C'était un test. Normalement, ça aurait dû être simplement un test. Simuler une coupure d'électricité, vérifier le fonctionnement du mode d'alimentation électrique de secours. Mais soudainement, la température monte à toute vitesse et hop là ! Deux formidables détonations retentissent et un réacteur qui explose. Les produits radioactifs sont projetés jusqu'à 1200 mètres de hauteur. On connaît les suites. L'écrivaine et journaliste biélorusse Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature par ailleurs, avait rencontré des personnes et écrit quelque chose de magnifique, La Supplication. Et il y a 5 ans, en avril 2021, nous avions enregistré quelque chose pour commémorer les 35 ans à l'époque, avec Corinne Lecomte et Valérie. Et je voudrais aujourd'hui qu'on puisse repasser et réécouter ce que nous avions fait à l'époque. Merci de votre écoute, parce qu'on ne peut pas oublier Tchernobyl et on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui nous est préparé là, ou ce que d'aucuns voudraient continuer et poursuivre, toujours plus d'EPR, toujours plus de nucléaire, dans une ambiance internationale politique que je ne vais pas redétailler là, mais qui me paraît suffisamment requérir notre prudence, grande, grande prudence, et nos résistances. Bon courage, à bientôt.
Svetlana Alexievitch, elle est auteure notamment de « La guerre n'a pas de visage de femme », son premier livre en 1985. C'était un témoignage de femmes russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a écrit aussi « Des cercueils de zinc » concernant la guerre en Afghanistan et « La fin de l'homme rouge ». Elle a interrogé durant les 10 années qui ont suivi la pire catastrophe nucléaire de l'humanité plus de 500 témoins de l'accident de Tchernobyl, dont des liquidateurs, des politiciens, des médecins, des physiciens, mais aussi des citoyens ordinaires. Ici, son livre « La Supplication » ne donne pas d'évaluation de l'événement. Il ne portait pas d'accusation, il entraîne le lecteur à explorer, à reconcevoir les faits historiques d'un point de vue des petites vies, des émotions des petites gens, des petites histoires pleines d'humanité, qui forment réellement la mémoire collective et qui renseignent plus puissamment sans doute sur l'histoire avec un grand H.
Voilà, comme le souligne l'américaine Kate Brown dans le livre Tchernobyl par la preuve vient enfin d'être traduit et publié en France. Tchernobyl a-t-il tué 54 personnes ou 200 000, voire 1 million, comme le prétend l'Académie des sciences de New York? Personne ne le sait. Les mensonges et les collusions internationales sont certainement le plus grand scandale dans cette catastrophe, bien plus grand qu'on ne le dit. Voilà. La lecture du prologue, c'est parti. Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour? Ou c'est égal?
Nous étions jeunes mariés. Dans la rue, nous nous tenions encore par la main, même si nous allions au magasin. Je lui disais « Je t'aime ». Mais je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Je n'avais pas idée.
« Je t'aime ».
Nous vivions au foyer de la caserne des sapeurs-pompiers où il travaillait, au premier étage avec 3 autres jeunes familles. Nous partagions une cuisine commune. Et les véhicules étaient garés en bas, au rez-de-chaussée, les véhicules rouges des pompiers. C'était son travail. Je savais toujours où il était, ce qui lui arrivait. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit, j'ai regardé par la fenêtre, il m'a aperçu. « Ferme les lucarnes et recouche-toi, il y a un incendie à la centrale, je serai vite de retour. »
Je n'ai pas vu l'explosion. Rien que la flamme, tout semblait luire, tout le ciel, une flamme haute, de la suie, une horrible chaleur. Il ne revenait toujours pas, la suie provenait du bitume qui brûlait. Le toit de la centrale était recouvert de bitume. Plus tard, il se souviendrait qu'il marchait dessus, comme sur de la poix. Ils étouffaient la flamme, ils balançaient en bas avec leurs pieds, le graphite brûlant. Ils étaient partis comme ils étaient, en chemise, sans leur tenue en prélard. Personne ne les avait prévenus. On les avait appelés comme pour un incendie ordinaire.
4 heures du matin. 5.
5.
6.
6.
À 6 heures, nous avions prévu d'aller chez ses parents pour planter des pommes de terre. Il y a 40 kilomètres de la ville de Prépria jusqu'au village de Sergy où vivait sa famille. Semer, labourer, ses occupations préférées. Sa mère évoquait souvent comment ni son père ni elle ne voulaient le laisser partir pour la ville. Ils lui ont même bâti une nouvelle maison, mais il a été incorporé. Il a fait son service à Moscou dans les sapeurs-pompiers et quand il est revenu, sapeur-pompier, il ne voulait pas entendre parler d'autre chose.
Même les photos n'agissent pas sur moi autant que sa voix. Mais il ne m'appelle jamais. Et en rêve, c'est moi qui l'appelle.
7 heures. À 7 heures, on m'a fait savoir qu'il était à l'hôpital. J'ai couru, mais la milice avait déjà isolé le bâtiment et n'y laissait rentrer personne. Seules les ambulances traversaient le barrage. Les miliciens criaient « Près des voitures, la radiation bloque les compteurs au maximum, ne vous approchez pas !» Je n'étais pas seule. Toutes les femmes avaient accouru, toutes celles dont les maris se trouvaient dans la centrale cette nuit-là. Je me suis lancée à la recherche d'une amie médecin dans cet hôpital. Je l'ai saisie par sa blouse blanche lorsqu'elle est descendue de voiture. « Fais-moi passer !»«
Je ne peux pas. Il va mal. Ils vont tous mal. »
Mais je ne la lâchais pas. Juste un regard.
Elle me dit, d'accord, allons-y, pour un quart d'heure, 20 minutes. Je l'ai vu, tout gonflé, boursouflé. Ses yeux se voyaient à peine.
Il faut du lait, beaucoup de lait, m'a dit mon ami. Qu'il boive au moins 3 litres.
Mais il n'en prend pas.
Mais désormais, il en prendra.
Nombre de médecins, d'infirmières et surtout d'aides-soignantes de cet hôpital tomberaient malades plus tard, mourraient. Mais alors, personne ne le savait.
Personne ne le savait.
Personne. Personne ne le savait.
À 10h du matin, l'opérateur Chichenok rendit l'âme. Il fut le premier jour. Nous avons appris plus tard que le deuxième, Valera Kodemchuk, était resté sous les décombres. On n'était pas parvenu à le dégager. Son corps a été noyé dans le béton. Et nous ne savions pas encore qu'ils étaient tous les premiers.
Vasenka, que faire ? Lui demandai-je. Pars d'ici, pars, tu vas avoir un enfant. En effet, j'étais enceinte. Mais comment pouvais-je le laisser, lui ? Lui, il me supplie, pars, sauve le bébé. Je dois d'abord t'apporter du lait, après on prendra une décision.
Ma copine, Tania Kibenok, arrive en courant. Son mari est dans la même chambre. Son père l'accompagne, il a sa voiture. Nous la prenons pour aller au village le plus proche acheter du lait, à environ 3 km de la ville. On achète plusieurs bocaux de 3 litres remplis de lait, 6 pour en avoir assez pour tous. Mais le lait les faisait horriblement vomir. Ils perdaient sans cesse connaissance et on les plaçait sous perfusion. Les médecins répétaient qu'ils étaient empoisonnés au gaz. Personne ne parlait de radiation.
Personne ne parlait de radiation.
Pendant ce temps, la ville se remplissait de véhicules militaires.
Personne ne parlait de radiation.
Les barrages étaient dressés sur toutes les routes. Les
personne,
trains ne roulaient plus.
Personne ne parlait de radiation.
Ni sur les grandes lignes. On lavait les rues avec une poudre blanche. Je m'inquiétais comment aller acheter du lait frais au village le lendemain.
Personne ne parlait de radiation. Seuls les militaires avaient des masques. Dans la rue, les citadins portaient le pain qu'ils achetaient dans les magasins. Des paquets ouverts de petits pains. Des gâteaux étaient posés sur les étalages ouverts.
Le soir, on ne me laissa pas entrer à l'hôpital.
Une foule de gens s'entassait tout autour.
Je me plaçais devant la fenêtre, il s'approcha et me cria quelque chose, si désespérément.
Dans la foule, quelqu'un entendit qu'on allait les emmener à Moscou dans la nuit.
Toutes les épouses se rassemblèrent.
Nous décidâmes de partir avec eux. Laissez-nous rejoindre nos maris. Vous n'avez pas le droit.
On se battait, on se griffait.
Vous n'avez pas le droit.
Des soldats déjà nous repoussaient.
Alors un médecin sortit et confirma le départ pour Moscou en avion. Mais nous devions leur apporter des vêtements. Les leurs avaient brûlé à la centrale. Les autobus ne roulaient plus et nous nous égayâmes à travers toute la ville en courant.
Notre retour chargé de sacs, l'avion était déjà parti.
Il nous avait trompés exprès
pour nous empêcher de crier, de pleurer.
Pour nous empêcher de crier, de pleurer.
La radio annonça que la ville allait être évacuée, probablement pour 3 à 5 jours. Prenez des vêtements chauds, des survêtements de sport. Vous allez vivre en forêt, dans des tentes.
Dans des tentes.
Les gens s'en réjouissaient, même une escapade dans la nature, on y fêterait le 1er mai. C'était tellement inhabituel. On préparait des chashliks pour le voyage.
Des chashliks.
On emportait des guitares, des magnétophones.
Seules pleuraient celles dont les maris avaient physiquement souffert.
Je ne me souviens pas de la route.
C'est comme si je n'étais revenue à moi qu'en voyant sa mère. Maman, Vassia est à Moscou. On l'a emmenée dans un avion spécial. Nous avons fini les semailles dans le potager. Et une semaine plus tard, on évacuerait le village ?
Qui pouvait savoir alors ?
Dans la soirée, j'ai été prise de vomissements. J'étais enceinte de 6 mois. Je me sentais si mal. Dans la nuit, j'ai rêvé qu'il m'appelait. Tant qu'il était en vie, il m'appelait dans mon sommeil. Lucia, Liusienka. Et après sa mort, il ne l'a plus fait une seule fois. Pas une seule fois. Le matin, je me suis levée avec l'idée de me rendre à Moscou, moi-même. « Où vas-tu aller dans ton état ?» pleurait sa mère. Nous avons également préparé les affaires de mon beau-père pour le voyage. Il retira l'argent qu'ils avaient à la caisse d'épargne. Tout leur argent.
Je ne me souviens pas du voyage non plus. Le chemin est également sorti de ma mémoire. À Moscou, nous avons demandé au premier milicien venu dans quel hôpital se trouvaient les sapeurs-pompiers de Tchernobyl et il nous l'a dit, hôpital numéro 6 à Tchouktchoukinskaya.
C'était un établissement radiologique spécial et l'on n'y pouvait entrer sans laisser passer. Je donnais de l'argent à la gardienne et elle me dit « Vas-y ». Il me fallut encore quémander et supplier d'autres personnes. Finalement, je me retrouvais face au chef du service radiologique, Angelina Vassilievna Guskova. Je ne connaissais pas encore son nom. Je ne retenais rien. Je savais seulement que je devais le voir. Elle me demanda aussitôt « Avez-vous des enfants ?»
Comment pouvais-je lui dire ? Je comprenais déjà combien il était important de taire ma grossesse, sinon cette femme ne m'aurait pas laissé le voir. Heureusement que j'étais maigre et qu'on ne devinait rien. « Oui, répondis-je. »«
Combien ?»
Je me dis « Je dois lui dire que j'en ai deux. » Pour un seul, elle ne m'autorisera quand même pas à rentrer. Un garçon et une fille.
Si tu en as deux, tu n'en auras probablement plus d'autres. Maintenant, écoute. Le système nerveux central et la moelle osseuse sont entièrement atteints.
Ce n'est rien, pensais-je. Il va juste devenir un peu nerveux.
Écoute encore. Si tu pleures, je te renvoie tout de suite. Il est interdit de s'embrasser et de se toucher. Ne pas s'approcher. Tu as une demi-heure.
Mais je savais que je ne partirais plus. Si je partais, ce ne serait qu'avec lui. Je me fis ce serment.
J'entrai. Ils sont assis sur un lit, jouent aux cartes et ils rient. « Vassia !» lui crie-t-on. Il se retourne. « Oh, je suis perdu les gars, même ici elle m'a retrouvé. » Il est tellement drôle. On lui a donné un pyjama de taille 48 alors qu'il faudrait un 52. Les manches sont trop courtes, les jambes du pantalon sont trop courtes. Mais l'œdème sur son visage a déjà disparu. On leur administrait une perfusion pour cela. Je lui demande « Et où donc as-tu disparu si soudainement ?» Il veut m'embrasser.
Reste assis. Le médecin le retient loin de moi. On ne s'enlace pas ici.
Nous avons tourné cela à la blague et tout le monde a accouru, y compris des autres chambres, tous les nôtres, ceux de Pripyat. Ils étaient 28 à avoir pris l'avion. Que se passe-t-il là-bas, chez nous, à la ville ? Je réponds que l'évacuation a commencé, que la ville va être évacuée de 3 à 5 jours. Les hommes se taisent. Mais il y a là deux femmes également. L'une d'elles était de garde au contrôle de la centrale le jour de l'accident. Et elle se met à pleurer. Mon Dieu, mes enfants sont là-bas. Que deviennent-ils ?
J'avais envie de rester seule avec lui, même seulement une minute. Les autres le sentirent et chacun inventa une excuse pour sortir dans le couloir. Alors je l'enlaçais et l'embrassais. Il s'écarta. Ne t'assieds pas près de moi, prends une chaise. Mais ce n'est rien. Je fis un geste de dérision avec le bras. As-tu vu où s'est produite l'explosion ? Qu'est-ce que c'était ? Vous étiez les premiers à arriver.
C'est certainement un sabotage. Quelqu'un l'a fait exprès. Tous nos gars sont de cet avis.
C'est ce qu'on disait alors.
C'est ce qu'on disait alors.
C'est ce qu'on pensait. Ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre. Il leur était catégoriquement interdit de sortir dans le couloir, d'avoir des contacts entre eux. Ils communiquaient en frappant les murs. Point, trait, point, point, trait. Les médecins avaient expliqué que chaque organisme réagit différemment aux radiations et que ce que l'un pouvait supporter dépassait les possibilités de l'autre. Là où ils étaient couchés, même les murs bloquaient l'aiguille des compteurs. À gauche, à droite, à l'étage en dessous. On avait dégagé tout le monde et il ne restait plus un seul malade. Personne autour d'eux.
Pendant 3 jours, je logeais chez des amis à Moscou. Ils me disaient « Prends la casserole, prends la cuvette, prends tout ce dont tu as besoin. » Je faisais du bouillon de dinde pour 6 personnes, nos 6 gars, les sapeurs-pompiers de la même équipe. Ils étaient tous de garde cette nuit-là. Vatchouk, Kibenok, Titnok, Pravik, Tchitchoura. Au magasin, je leur ai acheté du dentifrice, des brosses à dents et du savon. Il n'y avait rien de tout cela à l'hôpital. Je leur ai aussi acheté de petites serviettes de toilette. Je m'étonne maintenant du comportement de mes amis. Ils avaient sûrement peur, ils ne pouvaient pas ne pas avoir peur. Des rumeurs circulaient déjà. Et pourtant, ils me proposaient quand même « Prends tout ce qu'il te faut, prends, comment va-t-il ? Comment vont-ils ? Est-ce qu'ils vivront ?» Vivre ?
J'ai rencontré alors beaucoup de gens bien, je ne peux pas me souvenir de tous. Le monde s'est rétréci jusqu'à un point. S'est contracté. Lui, lui seul. Je garde en mémoire une aide-soignante âgée qui m'expliquait « Il y a des maladies qu'on ne peut pas traiter. » Il faut s'asseoir près du malade et lui caresser les mains.
Il faut s'asseoir près du malade et lui caresser les mains. Tôt le matin, je fais le marché près de chez mes amis, puis je cuisine le bouillon. Il faut tout passer au tamis, à chez menu. Quelqu'un m'a demandé « Apporte-moi une pomme avec 6 bocaux d'un demi-litre, toujours pour 6, à l'hôpital. » J'y reste jusqu'au soir et le soir, je retourne à l'autre bout de la ville. Combien de temps aurais-je tenu ? Mais 3 jours plus tard, on me proposa de loger dans la résidence des médecins, dans l'enceinte de l'hôpital. Oh mon Dieu, quel bonheur ! Mais il n'y a pas de cuisine là-bas, comment vais-je leur faire à manger ? Vous n'avez plus à cuisiner. Leurs estomacs ont cessé d'accepter la nourriture.
Ils changeaient. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que de petits chancres, puis ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches, en pellicule blanche. La couleur du visage, la couleur du corps, bleu, rouge, gris, brun. Et tout cela m'appartient et tout cela est tellement aimé.
Tout cela est tellement aimé.
On ne peut pas le raconter, on ne peut pas l'écrire.
savais pas encore à quel point je l'aimais. Nous étions jeunes mariés. Nous sortons dans la rue, il m'attrape par les mains et il me fait tourner. Et il m'embrasse, les gens passent et tout le monde sourit.
Le pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours.
14 jours.
L'homme meurt en 14 jours.
Le premier jour à la résidence, les dosimétristes m'inspectèrent mes habits, mon sac, mon portefeuille, les chaussures. Tout brûlait. On me prit tout aussitôt. Même les sous-vêtements, on me laissa seulement l'argent. En échange, on me donna un peignoir de l'hôpital, taille 56 et des chaussons du 43. Peut-être vous rendra-t-on vos habits ou peut-être pas. Car il est probable que l'on ne pourra pas les nettoyer, me dit-on.
C'est dans cet accoutrement que j'apparus devant lui. Il eut peur, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as ? Je m'évertuais quand même à faire du bouillon, je plongeais une résistance électrique dans un bocal de verre pour y faire bouillir de l'eau et j'y jetais des morceaux de poulet, de minuscules morceaux. Puis quelqu'un me donna une petite casserole, une femme de ménage ou une réceptionniste de la résidence, je crois. Quelqu'un d'autre me fournit une petite planche dans laquelle je coupais du persil frais. Je ne pouvais pas aller au marché dans les vêtements de l'hôpital, alors quelqu'un m'apportait ses herbes. Mais tout était vain, il ne pouvait même pas boire ou gober un œuf cru. Et je voulais tellement lui procurer une gourmandise quelconque, comme si cela pouvait l'aider.
J'ai couru jusqu'au bureau de poste. Les filles, demandai-je, je dois téléphoner d'urgence à mes parents, à Ivano-Frankovsk. Mon mari est en train de mourir ici. Elles ont, je ne sais comment, compris aussitôt d'où je venais, qui était mon mari. Elles ont établi la liaison en un instant. Le jour même, mon père, ma sœur et mon frère prirent l'avion pour Moscou. Ils m'apportèrent des affaires, de l'argent.
Le 9 mai, il m'a toujours dit « Tu ne peux pas t'imaginer comme Moscou est beau. Surtout le jour de la victoire, avec les feux d'artifice. Je veux que tu vois cela. »
« Je veux que tu vois cela. »
Je me suis assise près de lui et il a ouvert les yeux. Fait-il jour ou nuit ? Il est 9h du soir. Ouvre la fenêtre, les feux d'artifice commencent. J'ai ouvert la fenêtre au 7e étage. La ville entière s'étalait devant nous. Un bouquet de feux jaillit dans le ciel.
Alors,
j'ai promis de te montrer Moscou, j'ai promis de toujours t'offrir des fleurs à toutes les fêtes. Je tourne la tête, il fait surgir 3 œillets dissimulés sous son oreiller. Il avait donné de l'argent à une infirmière pour qu'elle les achète. Je bondis vers lui et lui donne un baiser. Mon unique, mon amour. Il me gronde, mais qu'est-ce que les médecins t'ont dit ?
Il ne faut pas m'enlacer.
Il ne faut pas m'embrasser.
On ne le permettait pas.
On ne me le permettait pas, mais...
Mais je le relevais et le faisais s'asseoir. Je changeais ses draps, je lui donnais le thermomètre.
Je lui apportais le bassin, je le lui enlevais.
Et pour cela, personne ne disait rien. C'est bien que cela se passât dans le couloir et pas dans sa chambre. Ma tête se mit à tourner et j'agrippais le rebord de la fenêtre. Un médecin passait et il me prit la main. Et soudain, vous êtes enceinte ? Non, non. J'avais tellement peur que quelqu'un ne nous entende. Ne mentez pas, soupira-t-il. J'étais dans un tel désarroi que je n'eus pas le temps de lui demander quoi que ce fût. Le lendemain, on m'appela chez la responsable. Pourquoi m'avez-vous trompé ? Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit la vérité, vous m'auriez renvoyé chez moi. Un pieux mensonge. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais je suis avec lui.
Toute ma vie, je serai reconnaissante à Angelina Vassilievna Guskova, toute ma vie. D'autres épouses étaient venues, mais on ne les avait pas laissées entrer. Les mères étaient avec moi. La mère de Volodya Pravik implorait Dieu sans cesse, « Prends-moi à sa place. »«
Prends-moi à sa place. »«
Prends-moi à sa place. »
Un professeur américain. Le docteur Gall, il a procédé à une greffe de moelle osseuse. Il me consolait. Il existe un espoir, petit mais un espoir quand même. C'est un organisme tellement puissant, un gars tellement fort. On convoqua tous ses proches. Ses deux sœurs arrivèrent de Biélorussie, son frère de Leningrad, où il faisait son service militaire. Et la cadette, Natacha, avait 14 ans. Elle pleurait beaucoup et elle avait peur. Mais c'était sa moelle à elle qui convenait le mieux.
Je peux en parler maintenant. Avant, je ne le pouvais pas. Pendant 10 ans, je me suis tue. 10 ans. Quand il a appris que l'on allait prendre la moelle de sa sœur, il refusa catégoriquement. « Mieux vaut que je meure, ne la touchez pas, elle est petite. » Sa sœur aînée, Liouda, avait 28 ans. Infirmière elle-même, elle comprenait les risques qu'elle prenait. « Qu'ils vivent !» accepta-t-elle.
« Qu'ils vivent !»
J'ai vu l'opération, ils étaient allongés côte à côte sur des tables. Il y a une grande fenêtre dans le bloc. L'intervention a duré 2 heures.
Quand ce fut fini, Liouda allait plus mal que lui. Elle avait 18 ponctions sur la poitrine.
Qu'ils vivent.
Et sortit difficilement de l'anesthésie. À ce jour, elle est encore malade. Elle a une invalidité. C'était une jolie fille, forte. Elle ne s'est pas mariée. Et moi, je me démenais alors entre leurs deux chambres, de chez lui à chez elle. On ne l'avait pas remis dans une chambre ordinaire, mais dans une pièce pressurisée, derrière une toile transparente, où il était interdit d'y pénétrer.
Mais il y avait des appareils spéciaux pour faire des piqûres ou introduire un cathéter sans entrée, mais tout n'était retenu que par des bandes velcro ou des loquets, et j'appris à m'en servir, à les desserrer, à me faufiler près de lui.
Une petite chaise se trouvait près de son lit. Il allait tellement mal que je ne pouvais plus m'absenter, même pour une minute. Il m'appelait tout le temps, Liusia.
Où es-tu, Liusenka?
Il m'appelait sans cesse. Le service des autres chambres pressurisées où se trouvaient nos gars était assuré par des soldats.
Les aides-soignants d'hôpital avaient refusé. Ils exigeaient des habits de protection.
Les soldats portaient les bassins, lavaient le plancher, changeaient les draps.
Ils faisaient tout. D'où venait-il? Je ne leur demandais même pas. Il n'y avait que lui. Lui. Et chaque jour, j'entendais...
Mort.
Mort. Tichoura est mort.
Mort.
Titenok est mort.
Mort.
Comme un coup de marteau sur le crâne. Les selles, 25 à 30 fois par jour, avec du sang et des mucosités. La peau des bras et des jambes se fissurait. Tout le corps se couvrait d'ampoules. Quand il remuait la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller. Je tentais de plaisanter, c'est pratique, plus besoin de peigne. Bientôt, on leur rasa le crâne, je lui coupais les cheveux moi-même. Je voulais faire tout ce qu'il fallait pour lui. Si j'avais pu tenir physiquement, je serais resté 24 heures sur 24 près de lui. Je regrette chaque minute perdue. Je regrettais chaque petite minute.
Mon frère est venu. Il avait peur. Je ne te laisserai pas entrer là. Mon beau-père lui a dit, mais est-ce qu'on peut empêcher une femme comme elle de faire quelque chose? Elle passera par la fenêtre, elle grimpera par l'escalier de secours.
Je me suis absentée. À mon retour, une orange est posée sur sa table de chevet. Une grande orange, pas jaune, mais rose. Il me sourit. On me l'a offerte. Prends-la. À travers la toile plastique, l'infirmière me fait un signe. On ne peut pas la manger si elle est restée quelque temps près de lui. Non seulement on ne peut pas la manger, mais encore, on a peur de la toucher. S'il te plaît, mange-la, me demande-t-il. Tu aimes tellement les oranges. Je la prends et entre-temps, il ferme les yeux et s'endort. On lui faisait continuellement des piqûres pour qu'il dorme. Des drogues. L'infirmière me regarde d'un air effaré. Et moi, je suis prête à faire n'importe quoi pourvu qu'il ne pense pas à la mort, qu'il ne pense pas que sa maladie est horrible, que j'ai peur de lui.
Des bribes d'une conversation me reviennent en mémoire. Quelqu'un m'exhorte. Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé, qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire ? Prenez-vous en main. Et moi, comme une folle.
Je l'aime.
Je l'aime.
Je l'aime.
Je l'aime. Pendant son sommeil, je chuchotais. Je t'aime. Je marchais dans la cour de l'hôpital. Je t'aime. Je portais le bassin. Je t'aime. Je me souvenais de notre vie avant. Dans notre foyer, il s'endormait seulement quand il prenait ma main. Il avait cette habitude de me tenir la main la nuit. Toute la nuit. Et à l'hôpital, je prenais sa main et ne la lâchais pas.
La nuit, le silence. Nous sommes seuls, il me regarde très très attentivement et il me dit soudain « J'ai tellement envie de voir notre enfant, comment va-t-il ?»«
Comment allons-nous l'appeler ?»«
Oh, tu lui trouveras un nom toute seule. »«
Pourquoi seule, puisque nous sommes deux ?»
Alors, si c'est un garçon, que ce soit Vassia, et si c'est une fille, Natacha ?
Comment cela, Vassia ? J'ai déjà un Vassia, c'est toi, je n'ai pas besoin d'un autre. Je ne savais pas encore combien je l'aimais. Lui, rien que lui, comme une aveugle. Je ne sentais même pas les coups sous mon cœur. Et pourtant, j'en étais déjà au sixième mois.
Je pensais qu'il était à l'intérieur de moi, mon petit, et qu'il était protégé.
Aucun des médecins ne savait que je dormais dans la chambre pressurisée. Ils ne le soupçonnaient même pas. C'étaient les infirmières qui me laissaient entrer. Au début, elles tentaient de me dissuader. « Tu es jeune, à quoi penses-tu ? Ce n'est plus un homme, mais un réacteur. Vous allez vous consumer ensemble !» Je courais derrière elles comme un petit chien. Je restais des heures devant la porte. Je quémandais, suppliais. Finalement, elles me dirent « Que le diable t'emporte ! Tu es folle !» Le matin, avant 8h, lorsque commençait la visite médicale, elle me faisait signe à travers la toile transparente. « Cours, cours !» Je m'enfuyais pour une heure. À la résidence. Et de 9h du matin à 9h du soir, j'avais un laissez-passer. Mes jambes étaient bleues jusqu'aux genoux, tellement j'étais fatiguée.
Tant que je restais avec lui, rien ne se passait, mais dès que je m'absentais, on le photographiait. Il n'avait aucun vêtement, il couchait nu, juste recouvert d'un drap léger que je changeais tous les jours. Le soir, il était tout couvert de sang. Lorsque je le soulevais, des morceaux de peau restaient collés sur mes mains. Je lui dis « Chérie, aide-moi, appuie-toi sur le bras, sur le coude, autant que tu peux, pour que je puisse bien lisser ton lit, qu'il n'y ait ni couture ni pli, car même la plus petite couture lui faisait une plaie. Je me suis coupé les ongles jusqu'au sang pour ne pas l'accrocher. » Aucune des infirmières ne pouvait s'approcher de lui, le toucher. S'il leur fallait quelque chose, elle m'appelait. Si l'on prenait des photos, ils disaient que c'était pour la science.
Pour la science.
Et je les aurais chassés tous, je les aurais frappés. Mais comment pouvait-il ? Tout était à moi,
comment
tout aimait de moi. Si j'avais pu ne pas les laisser entrer, si seulement j'avais pu.
Je passe de la chambre dans le couloir et je me heurte au mur, au canapé que je ne vois pas. Je dis à l'infirmière de garde, il est mourant. Et elle me répond, qu'imagines-tu ? Il a reçu 1600 röntgens, alors que la dose mortelle est de 400. Tu côtoies un réacteur. Tout à moi. Tout aimé.
Après leur mort à tous, on a fait des travaux à l'hôpital. Les murs ont été raclés, le parquet démoli et jeté, tout ce qui était en bois. Après la fin, je ne me souviens plus que par bribes, et puis la coupure.
Je passe la nuit près de lui sur la petite chaise. À 8h, je lui dis « Vasenka, je m'en vais, je vais me reposer un peu ». Il ouvre et ferme les yeux, il me laisse partir. Je suis à peine arrivée à la résidence, à ma chambre. Je me suis étendue par terre, je ne pouvais pas me coucher sur le lit, le corps me faisait trop mal. Une infirmière frappe à ma porte. « Viens, cours le voir, il n'arrête pas de te réclamer. »
Mais ce matin, Tania Kibenok m'a tellement supplié. « Accompagne-moi au cimetière, sans toi je ne pourrais pas. » On enterrait Vitya Kibenok et Volodya Pravik. Vitya et mon Vasya étaient très amis, nos familles étaient amies.
La veille de l'explosion, nous avons pris une photo ensemble, au foyer. Que nos hommes y sont beaux, gais. Le dernier jour de notre vie d'avant. Comme nous sommes heureux.
De retour du cimetière, j'appelle rapidement l'infirmière. Comment va-t-il ? Il est mort il y a un quart d'heure.
Comment ?
J'avais passé toute la nuit dans sa chambre. Je ne m'étais absentée que 3 heures.
Que 3 heures, je suis restée.
Je suis restée près de la fenêtre à hurler.
On m'entendait dans toute la résidence. On avait peur de m'approcher. Puis je suis revenue à moi.
Le voir au moins une dernière fois.
Au moins une dernière fois. Le voir.
J'ai dévalé l'escalier.
Il était encore dans la chambre pressurisée.
On n'avait pas encore emporté.
Ses dernières paroles ont été...
Lucia.
Lucienka.
L'infirmière l'a calmée. Elle est juste sortie.
Elle revient tout de suite. Il a soupiré. Apaisé.
Je ne me suis plus détachée de lui.
Je l'ai accompagné jusqu'au cercueil.
Bien que je ne me souvienne pas d'un cercueil, mais d'un grand sac en plastique.
Ce sac.
À la morgue, ils me demandèrent...
Voulez-vous voir comment nous l'avons habillé ?
Bien sûr, je le voulais. Il était revêtu de sa grande tenue, la casquette posée sur sa poitrine.
On n'avait pas pu le chausser car personne n'avait pu trouver de chaussures à sa taille. Ses pieds étaient trop gonflés.
Il avait fallu également couper l'uniforme car il était impossible de le lui enfiler. Il n'avait plus de corps solide.
Il n'était plus qu'une énorme plaie.
Les 2 derniers jours à l'hôpital.
Je lui ai soulevé le bras et l'os a bougé car la chair s'en était détachée.
Des morceaux de poumon, de foie lui sortaient par la bouche.
Il s'étouffait avec ses propres organes internes.
J'enroulais ma main dans une bande et la lui mettait dans la bouche pour en extraire ces choses.
On ne peut pas raconter cela. On ne peut pas l'écrire. C'était tellement proche.
Tellement aimé.
Il était impossible de lui enfiler des chaussures. On le mit pieds nus dans le cercueil.
Sous mes yeux, dans son grand uniforme, on l'a glissé dans le sac en plastique que l'on a noué.
Et ce sac, on l'a placé dans un cercueil en bois.
Et ce cercueil, on l'a couvert d'un autre sac en plastique transparent, mais épais comme une toile cirée.
Et l'on a mis tout cela dans un cercueil en zinc.
Seule la casquette est restée dehors. L'enterrement. Ses parents, les miens, nous avons acheté des foulards noirs à Moscou. Une commission extraordinaire recevait les familles. On disait la même chose à tout le monde. On ne peut pas vous rendre les corps de vos maris, de vos fils. Ils sont très radioactifs et vont être enterrés dans un cimetière de Moscou selon un procédé spécial, dans des cercueils en zinc, scellés sous des dalles de béton. Et vous devez signer ce papier. Si quelqu'un s'indignait et voulait emmener quand même le cercueil au pays, on le persuadait que les défunts étaient des héros qui n'appartenaient plus à leur famille. Ils appartenaient désormais à l'État.
Nous nous sommes installés dans le corbillard, les proches et des militaires. Un colonel avec un appareil radio, on lui transmettait « Attendez nos ordres, attendez ». Nous avons tourné pendant 2 ou 3 heures dans Moscou, puis sur le périphérique. Puis nous sommes retournés à Moscou. On communique. L'entrée dans le cimetière n'est pas autorisée. Le cimetière est investi par des journalistes étrangers. Attendez encore. Les parents se taisent. Ma mère porte un foulard noir. Je sens que je perds connaissance. Je me débats dans une crise d'hystérie. Pourquoi faut-il cacher mon mari ? Est-il un assassin ?
Un assassin ?
Un criminel ?
Un bandit ?
Un bandit ?
Un criminel.
Qui en tirons-nous ? Maman ! Du calme, du calme. Ma petite fille, elle me caresse les cheveux. Le colonel transmet. Requiert autorisation d'aller au cimetière, la femme a une crise d'hystérie. Au cimetière, des soldats nous entourent, nous marchons sous escorte et l'on porte le cercueil, on ne laisse passer personne. Nous sommes seuls, la tombe est immédiatement comblée. Vite, vite, ordonne l'officier. On ne m'autorise même pas à enlacer le cercueil, puis tout de suite dans les autobus, tout en cachette.
En un instant, on nous acheta et apporta les billets de retour. Le lendemain, un homme en civil, mais qui se tenait comme un militaire, nous accompagna partout. Il ne nous autorisa pas à quitter la résidence, même pour acheter de la nourriture pour le voyage. Et que Dieu nous préserve d'en parler à quelqu'un.
Surtout moi, comme si j'avais pu parler. Je ne pouvais même pas pleurer. Au moment du départ, la gardienne a compté toutes les serviettes, tous les draps. Elle les glissait aussitôt dans un sac en plastique. Sans doute les a-t-on brûlés. Nous avons réglé nous-mêmes la note de la résidence pour 14 jours.
Tel est le cycle du mal aigu des rayons. 14 jours.
14 jours.
En 14 jours, l'homme meurt.
L'homme meurt en 14 jours. À la maison, je me suis endormie. Je suis restée chez moi et je suis tombée sur le lit. J'ai dormi 3 jours. On a appelé les secours d'urgence. Non, a dit le médecin, elle n'est pas morte, elle va se réveiller. C'est un sommeil terrible.
J'avais 23 ans.
Je me souviens d'un rêve. Ma défunte grand-mère vient chez moi, vêtue des habits dans lesquels nous l'avions enterrée. Elle décore un sapin. « Grand-mère, pourquoi ce sapin ? C'est l'été maintenant. Il le faut. Ton Vasenka viendra bientôt me voir. » Et il a grandi au milieu de la forêt.
Encore un autre rêve. Vasya vient, tout habillée de blanc, et appelle Natacha, notre fille dont je n'ai pas encore accouché. Elle est déjà grande, elle a vite poussé. Il la lance en l'air sous le plafond et il rit. Et je les regarde en pensant que le bonheur est tellement simple.
Je rêve. Nous pataugeons longtemps dans l'eau. Nous marchons longtemps, longtemps. Peut-être voulait-il me demander de ne pas pleurer. Peut-être me faisait-il un signe de là-bas, d'en haut.
Deux mois plus tard, je revins à Moscou. De la gare, droit au cimetière, chez lui. Et ce fut là que j'eus les premières douleurs dès que je lui parlais. On appela une ambulance et j'accouchais chez cette même Angelina Vassilievna Guskova. Elle m'avait averti, viens accoucher chez nous. J'ai enfanté 2 semaines avant terme.
On me la montra, une petite fille. Natashenka, lui dis-je, papa t'a appelée Natacha. À première vue, c'était un bébé sain, des bras, des jambes. Mais elle avait une cirrhose, 28 röntgens dans le foie.
Malformation cardiaque congénitale.
4 heures plus tard, on m'a annoncé que ma fille était morte.
Et de nouveau, il n'est impossible de vous la rendre.
Comment ?
Vous
n'allez pas me la rendre ?
C'est moi qui ne vais pas vous la rendre.
Vous voulez me la prendre pour la science et je hais votre science.
D'abord, elle me l'a
prise. Je la hais.
Et maintenant, elle veut encore. Non, je ne la donnerai pas. Je l'enterrerai moi-même à côté de lui. Ce ne sont pas les vraies paroles, non, pas les vraies. Après une hémorragie cérébrale, je ne peux pas crier ni pleurer. Voilà pourquoi ce ne sont pas les vraies paroles, mais je vais vous dire.
Personne ne le sait.
Lorsque j'ai refusé de leur donner ma fille, notre fille, ils m'ont apporté une boîte en bois. Elle est là, j'ai regardé. On l'avait emmaillotée dans des langes. Alors j'ai pleuré, installée là à ses pieds. Dites que c'est notre Natachenka. Mais sur la tombe, il n'est pas marqué Natacha Ignatenko. Là, il n'y a que son nom à lui. Elle était encore sans nom, sans rien.
Je vais toujours chez eux avec 2 bouquets. L'un pour lui, l'autre au coin de la stèle, pour elle. J'avance à genoux près de la tombe, toujours à genoux. On m'attribua un appartement à Kiev, dans un grand immeuble où habitent maintenant tous ceux de la centrale nucléaire. C'était le grand de pièces dont nous avions toujours rêvé avec Vasya. Et moi, j'y devenais dingue. Dans chaque coin, là où je posais le regard, il était là. J'entrepris des travaux pour ne pas rester assise, pour oublier, et ce fut ainsi pendant 2 ans.
Un rêve. Nous marchons ensemble, mais il va pieds nus. Pourquoi es-tu toujours pieds nus? Mais parce que je n'ai rien à me mettre. Je suis allée à l'église. Le pope m'a donné un conseil. Il faut acheter des chaussons d'une grande pointure et les placer dans le cercueil de quelqu'un, avec un mot qu'ils sont pour lui. Je l'ai fait. Je suis allée à Moscou, tout droit dans une église. À Moscou, je suis toujours plus près de lui. C'est là qu'il repose, au cimetière Mintiskoï. Je dis au prêtre que, voilà, j'ai besoin de transmettre des chaussons. Il me demande, sais-tu comment procéder? Il m'a expliqué. On amenait justement un vieux grand-père pour l'office des morts. Je m'approche du cercueil, je soulève le voile et j'y place les chaussons. As-tu écrit le mot? Oui, mais je n'ai pas indiqué dans quel cimetière il était. Là-bas, ils sont tous dans le même monde, on le retrouvera.
Je n'avais plus aucun désir de vivre. Dans la nuit, je me tenais près de la fenêtre et je regardais le ciel. Vasenka, que puis-je faire? Je ne veux pas vivre sans toi.
Je ne veux pas.
Dans la journée, je passais près d'un jardin d'enfants et m'arrêtais pour regarder. Je pouvais regarder sans cesse les enfants. Cela me rendait folle. Et j'ai commencé à supplier. La nuit, Vasenka, je veux un enfant. J'ai peur de rester toute seule. Je ne le supporterai plus, Vasenka. Et une autre fois, j'ai dit comme ça, « Vasenka, je n'ai pas besoin d'un homme. Pour moi, il n'y a pas de meilleur que toi. Je veux un enfant. »
J'avais 25 ans.
J'ai trouvé un homme. Je lui ai tout raconté. Toute la vérité. Nous nous sommes vus. Mais je ne l'ai jamais fait venir chez moi. À la maison, je ne pouvais pas. Là, c'est Vassia. Je travaillais dans une confiserie. Je sculptais un gâteau et les larmes coulaient. Je ne pleurais pas. Les larmes roulaient toutes seules. La seule chose que je demandais aux autres filles, ne me prenez pas en pitié. Si vous me plaignez, je quitterai ce travail. Je voulais être comme tout le monde.
On me remit l'ordre décerné à Vassia, rouge. Longtemps, il me fut impossible de le regarder. Les larmes roulaient.
Je donnais naissance à un garçon. Maintenant, j'ai quelqu'un pour vivre et respirer. Il comprend tout très bien. Maman, si je pars chez mamie pour 2 jours, tu pourras respirer? Non, je ne pourrai pas. J'ai peur de me séparer de lui, même pour une seule journée. Nous marchions dans la rue et je me suis sentie tombée. Là, dans la rue. Maman, je peux t'apporter de l'eau? Non, reste à côté de moi, ne va nulle part. Et j'ai serré fort son bras. Je ne me souviens pas de la suite. J'ai rouvert les yeux à l'hôpital. Mais je le tenais tellement fort que les médecins ont eu du mal à desserrer mon étreinte. Et un bleu est longtemps resté visible sur sa peau. Maintenant, quand nous sortons... Maman, ne me prends pas par le bras. Je ne te quitterai pas. Il est malade, lui aussi. 2 semaines à l'école, 2 semaines à la maison avec un médecin. Voilà comment nous vivons. Chacun de nous a peur pour l'autre. Et Vassia est dans chaque coin, ses photos. Ouh, la nuit. La nuit, je lui parle et lui parle.
Les gens de la centrale vivent à côté de moi. Les gardiens, comme on les appelle. Ils ont travaillé là toute leur vie et à ce jour, ils continuent à prendre leur poste. Plusieurs d'entre eux ont des maladies terribles, sont invalides. Mais ils n'abandonnent pas la centrale. Qui a besoin d'eux aujourd'hui? Et où? Beaucoup meurent, sur le coup. Un homme était assis sur un banc et il est tombé.
Et il est tombé.
Un autre attendait l'autobus dehors et il est tombé.
Et il est tombé.
Ils meurent, mais personne ne les a véritablement interrogés sur ce que nous avons vécu. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de la mort, de l'horrible.
Mais moi, je vous ai parlé d'amour, de comment j'aimais.
Je ne sais pas combien on était du coup de femmes là, dès 18h. Il y avait sur le site, peut-être vous pourrez le regarder, une centaine d'initiatives comme celle-ci. Si on dit qu'il y a 3 femmes à la fois, ça fait peut-être 300, entre 300, 400 personnes qui, à partir de maintenant et tout demain, vont lire ce prologue.
Mmh. C'est une grande lecture polyphonique. Un hymne à l'amour, comme c'est marqué sur le site, qui s'appelle donc April 26 April. April ? L'appel du 26 avril, en anglais. Pour regarder qui lit dans votre région ou près de chez vous, vous pouvez rejoindre ce site. Ce site, vous trouverez peut-être un groupe. Voilà, qui, dans cette absence généralisée de l'art et de l'expression actuelle, parviendra peut-être à vous emmener dans cette lecture sans se faire stopper et puis à la partager avec vous ailleurs, en extérieur peut-être. Allez-y en tout cas. C'est donc jusqu'à demain minuit que nous avons le droit de lire, le droit et l'invitation à lire ce texte en public.
Oui, alors tu dis hymne à l'amour, c'est vrai que c'est comme ça que c'est présenté effectivement oui. Sur le site. Moi je dirais qu'au-delà de l'hymne à l'amour, qui est effectivement bien présent dans ce prologue, c'est quand même aussi, comme tu le disais en début, en intro avec le bouquin de Kate Brown, c'est aussi quand même un appel à plus de transparence peut-être sur ce qui nous est imposé ou ce qui est mis en place. Ou... Parce que, ok, très bien, Tchernobyl, ok, ça fait 35 ans. Puis Fukushima, et puis c'est quoi la prochaine? Autrement dit, c'est aussi un hymne certes poétique, mais aussi politique, à un niveau international, pas simplement sur la question de la Russie ou de l'ex-URSS ou des pays avoisinants, donc ça pose aussi d'autres questions. Donc pour moi, cette lecture-là, elle est aussi là-dessus. C'est vrai qu'elle a choisi le prologue en autorisant donc ça. Ça aurait pu être un des textes parce que voilà, moi je recommande vraiment la lecture du bouquin tout entier, de la supplication. Les autres chapitres
qui sont vraiment des témoignages.
Voilà, des témoignages très très fins, précis de personnes qui en souffrent là encore aujourd'hui dans leur chair, dans leur corps, dans leur âme de ce qui s'est passé. Et bon, c'est quand même intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on laisse faire là ceux qui ont du pouvoir pour le faire actuellement.
Voilà, j'espère, moi, je trouve, je sais pas Isabelle ce que t'en penses, mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres initiatives de voix qui s'élèvent comme ça, dans cette époque, parce que je crois qu'on a besoin de mémoire.
Maintenant plus que jamais.
Et puis de se concerter, c'était chouette.
De se concerter.
De se concerter,
non, puis de mettre en commun effectivement et des pensées et des façons de prendre les choses, ce texte littéraire et les aspects politiques et poétiques. Et puis la viole de gamme de Valérie, c'est vrai que c'était quelque chose avec. Super, merci beaucoup. Ciao.
Merci Isabelle, merci Valérie.
Ciao.
Щедрик, в очках, і флюди свого фромофо. Стати часи, ламіла, часки нема, стати кама. Камніво, кама, стерит стати, леша фол, вандас ту фай. Your lovely sheep have given birth to little lambs of great worth. All of your wares are very fine, corn you will have in a big pile. Are very fine corn you will have in a big pile. You have a wife fair as a dove. If not the coin, then the chaff. You have a wife fair as a dove. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати. Господаря викликати. Жиди, веди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотилися, ягнички народились. Тебе товар весь хороший, туди ж мати ніку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати ніку грошей. курошете, жінка, чуж доброва, хоч не розшита полова в тебе, жінка, чорна брова, щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Ластівочка.